Chers amis auditeurs, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver ensemble sur les ondes pour pouvoir parler de notre Dieu. Nous sommes toujours, comme précédemment, dans le commentaire, enfin en tout cas une sorte d'analyse, d'introduction à l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un livre qui pour beaucoup d'entre nous paraît assez compliqué, mais qui en définitive, lorsqu'on a quelques clés de lecture, nous paraît assez abordable. Alors, Apocalypse chapitre 1, c'est la vision du Christ glorieux. 2, 3, le reproche de cette église, je vous rappelle. Apocalypse chapitre 4, et c'est là où quelque part on a l'impression qu'on entre vraiment dans l'Apocalypse avec cette vision du trône, avec le Père qui est assis dessus. Ensuite, après la vision du Père, on a la vision de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance, hein, je vous rappelle, Genèse chapitre 6 et suivant, dans la Bible où on voit Noé, le déluge, et Dieu qui fait alliance avec son peuple en disant « Je ne détruirai plus jamais la terre, et voici le signe de mon alliance, l'arc-en-ciel. » Donc il y a le Père qui est assis sur son trône, qui fait alliance arc-en-ciel avec les 24 vieillards, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Ensuite, après le Père apparaît, l'Esprit-Saint à travers cette double symbolique hein, du trône, sorte des éclairs, des voix, des tonnerres. Et ensuite, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ensuite, verset 6, et devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Et on avait vu la dernière fois, n'est-ce pas, que cette mer, on peut l'interpréter comme étant la Vierge Marie. La prédestination, le mystère que Dieu a par rapport au regard sur cette femme pour permettre à son fils de pouvoir venir sur terre. Et c'est vrai que Marie, dans le plan de Dieu, a quand même une place privilégiée. Et ensuite, juste après cette mer de cristal, hein, on avait dit que l'Esprit-Saint avait utilisé Marie pour permettre à Jésus-Christ de venir sur terre. Là, on a donc l'Esprit-Saint, ensuite Marie à travers la mer de cristal, et puis Jésus-Christ qui vient dans son mystère d'incarnation. Ça veut dire qu'il vient en tant qu'il est devenu homme. Et en tant qu'il est devenu homme, on nous le présente à travers 4 dimensions. Hein, je vous relis, au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Alors, au milieu du trône et tout autour du trône, c'est là où, quand on réfléchit sans avoir, c'est vrai, l'interprétation, on est perdu parce qu'on ne peut pas être à la fois être au milieu du trône et autour du trône. Tu ne peux pas être assis sur ta chaise et autour de ta chaise, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on comprend que symboliquement parlant, dans le trône, c'est là où est Dieu, autour du trône, c'est là où est la créature, donc celui qui est à la fois Dieu et homme, hein, c'est donc bien le Fils, hein. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Et les yeux partout, c'est pour montrer qu'il connaît tout. Et celui qui connaît tout, l'omniscience, c'est bien un attribut qui est réservé à Dieu. Donc, et je vous rappelle le chiffre 4, qui est le chiffre de l'homme. Donc on voit bien qu'on est dans l'incarnation. On est présent, on est sur terre. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Et donc c'est comme si, pour essayer de comprendre qui est Jésus-Christ en tant qu'il est venu sur terre, on nous donne même comme 4 symbolismes pour regarder 4 dimensions de la vie de Jésus. Alors il est à la fois le lion, on avait vu le lion c'est le roi de la tribu de Juda, celui qui est vraiment le fils de Dieu qui est Dieu, celui qui a la royauté, qui est roi. J'aime souvent, moi, quand je parle de la royauté, là, prendre l'exemple du fils de Paul Biya. Paul Biya, c'est notre président au Cameroun, et il a un fils qui s'appelle Franck. Et lorsque son fils qui s'appelle Franck passe à un barrage de police quelque part, mais il est clair que tous les policiers se mettent au garde à vous et les laissent passer sans discuter. Dès que tu dis que je suis Franck Biya, comme tu es le fils de Biya, on arrête la circulation, on te laisse circuler, il n'y a pas de souci. Et comme moi, je passe juste après Franck Biya, je dis « Père Hervé Marie, fils de Dieu », on me demande mes papiers. Alors le fils de Paul Biya, on lui demande pas ses papiers, mais le fils de Dieu, on lui demande ses papiers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est, vous voyez, c'est que le fils de Paul Biya sur terre, il a les honneurs qu'on donne à un roi, et nous avons les honneurs qu'on donne à un roi, mais un roi divin. Alors on donne nos papiers, c'est clair, mais n'oublions pas que même si on monte nos papiers, nous sommes de race royale. Il y a quelque chose de royal en nous depuis que nous avons accepté de mettre le Christ à la première place dans notre vie. Donc le premier être vivant, un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le veau, c'était, ou le taureau, c'est ce qu'on égorgeait. On a souvent égorgé des taureaux, si vous reprenez dans le premier livre des rois au chapitre 18. Hein, dans le premier livre des rois, ceux qui écoutent l'émission et qui après seront chez eux à la maison, n'hésitez pas à prendre dans la Bible, l'Ancien Testament, le premier livre des rois, vous relisez les 3 chapitres, les chapitres 17, 18 et 19. Et dans le premier livre des rois au chapitre 17, 18, 19, ce sont des chapitres qui se lisent très facilement et qui sont très simples à lire, vous avez le cycle d'Élie. Et dans le cycle d'Élie, on voit comment il y a la veuve de Sarepta, Il y a le passage des prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal à qui il va couper la tête. Et dans ces 450 prophètes de Baal, on voit qu'il va égorger un taureau. Et c'est le feu du ciel qui va venir brûler le taureau. Et après, il va égorger les 450 prophètes de Baal. Et ensuite, au chapitre qui suit, au 19, c'est là où on dit qu'il va rencontrer Dieu. Et Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu n'était pas dans le tonnerre, Dieu n'était pas là, mais Dieu était dans la brise légère. Alors, voilà, donc le taureau. Et le taureau, c'est pour montrer que dans la vie du Christ, comme dans la vie de chaque chrétien, il y a une dimension qui implique le côté sacrificiel. On a des efforts à faire, on aura des petites souffrances, la croix sera présente. Ensuite, le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Alors, il est réellement homme. Et réellement homme, ça veut dire que cette nature humaine qui est la nôtre, nous n'avons pas à la nier, nous devons la vivre. Et la vivre de la manière la plus vraie qui soit, la plus simple qui soit. Et un homme a besoin de dormir, il a besoin de manger, il a besoin de s'habiller, il a besoin de se distraire, il a besoin de toutes ces choses. Et il faut que nous soyons le plus heureux possible sur cette terre grâce à notre nature humaine. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. L'aigle en plein vol, c'est celui qui regarde tout d'en haut. C'est celui qui est habité par l'Esprit Saint et qui a la sagesse de Dieu en lui. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Alors six, on avait vu que le chiffre six, c'est le chiffre du bonheur terrestre, le jour de l'apparition de l'homme et de la femme sur la terre. Donc on est toujours dans un côté qui est terrestre, incarné. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et on insiste toujours sur les yeux qui sont partout, donc l'omniscience. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Et ensuite, on a vu alors, c'est vrai que dans cette interprétation, il y a des gens qui disent quand même que c'est gênant de voir les quatre êtres vivants qui se prosternent, tout ça. Mais c'est le Christ, hein, pour moi, je vous rappelle, les quatre êtres vivants, le Christ dans son mystère d'incarnation, et le Christ en tant qu'il est venu sur terre est quelqu'un qui prie. Hein, il prie son Père. En Jésus-Christ, il y a deux natures, il y a la nature divine et la nature humaine. Hein. Jésus-Christ, c'est une personne qui a la nature divine et la nature humaine. C'est une personne qui a deux natures. La Trinité, hein, chez nous les chrétiens, la Trinité, c'est trois personnes qui sont distinctes et qui ont une seule et même nature. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Le Fils n'est pas l'Esprit Saint, etc. Et l'Esprit Saint n'est pas le Père. Donc, c'est trois personnes distinctes. Bon, c'est facile à comprendre. Hein. Je vous rappelle qu'un Père et un Fils sont toujours deux personnes distinctes. Moi, je ne suis pas mon Père. Hein, mon Père, il est aujourd'hui dans un hôpital en train de mourir. Il est déjà comme un légume. Moi, je suis encore en pleine forme et je suis là. Et donc, on est deux personnes distinctes. Mais mon Père m'a donné à moi ma nature, qui est la nature humaine. Et comme mon Père est un homme, je suis un homme. Si mon Père était un chien, je serais un chien. Si mon Père était un cafard, je serais un cafard. Hein, engendré, non pas créé. Et donc, le Père et le Fils ont toujours la même nature. Et dans le mystère de la Trinité, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont trois personnes divines. Un seul être qui a une seule nature divine, qui sont trois personnes. En Jésus-Christ, il y a une personne qui a deux natures. Vous voyez, quand on dit, hein, c'est au IVe siècle, je crois qu'au Concile d'Éphèse, on a déclaré Marie, Mère de Dieu. Quand on dit que Marie est mère de Dieu, alors il y a un passage biblique qui le dit, hein, c'est quand Marie va chez sa cousine Élisabeth, et en arrivant chez sa cousine Élisabeth, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et Marie est bien la mère du Seigneur. Et quand on dit que Marie est mère de Dieu, alors il faut bien comprendre, c'est parce que quand vous discutez avec des gens des autres églises, quelquefois qui sont un peu tordus, qui veulent nous déranger, ils vous disent, mais est-ce que Dieu a une mère? Puisque vous dites que Marie est mère de Dieu, est-ce que Dieu a une mère? Alors il est vrai qu'en posant la question de cette manière-là, on se trouve dans un contexte un petit peu différent. Dieu n'a pas de mère. Il faut mettre des choses claires. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de père. Dieu est Dieu et Dieu est sans commencement ni fin. Hein? Donc Dieu, au sens strict, n'a pas de mère. Parce que le Père, lui, eh bien, il n'y a pas de mère de la Trinité, il n'y a pas de mère du Père, de mère du Verbe fait chair, non. Donc, ce qu'il y a, il y a la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et la Trinité qui est Dieu, elle n'a pas de mère, c'est évident. Mais Jésus-Christ qui est venu sur terre, Jésus-Christ, lui, il a été accouché par Marie. Et Marie a mis au monde une personne. Je vous ai dit que Jésus-Christ, c'est une personne qui a deux natures. Et la personne que Marie a mis au monde, c'est quelqu'un qui est vrai Dieu et vrai homme. Et Marie a bien accouché une personne qui est vrai homme et une personne aussi qui est vrai Dieu. Et puisque Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, Marie est bien mère de Jésus qui est Dieu. Et Jésus-Christ étant Dieu, on dit de Marie qu'elle est mère de Dieu. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde, c'est pas très compliqué. Hein. C'est juste des petites distinctions qui sont bonnes à faire et des compréhensions par rapport à Jésus. Et Jésus, donc, dans sa nature divine, il est Dieu, il contemple Dieu et il voit Dieu. Dans sa nature humaine, eh bien, il est un homme. Et en tant qu'homme, eh bien, il a une nature humaine qui a été créée. Les yeux de Dieu ne sont pas des yeux éternels qui existent depuis toujours. Ils existent depuis que Marie lui a donné un corps. Et Jésus-Christ, en tant qu'il est homme, va être celui qui, sur terre, sera notre modèle à chacun d'entre nous et va nous conduire dans le chemin de Dieu. Et dans ce chemin de Dieu, c'est pour ça qu'il va nous montrer l'essentiel pour nous qui est notre vie de prière. Jésus-Christ, avant de choisir les apôtres, a passé une nuit en prière. Jésus-Christ à Gethsémani, il a prié. Jésus-Christ a donné le Notre Père. Jésus-Christ, dans Jean 17, nous donne la prière du Fils bien-aimé, la prière sacerdotale, qui est une prière qui est très belle. Et Jésus-Christ prie. Et c'est pour ça que ce Jésus-Christ va nous introduire, nous aussi, les hommes qu'il a choisis, ses disciples, ses amis, dans cette relation qu'il veut que nous ayons, nous aussi, avec son Père. Et c'est pour ça que c'est celui qui va nous apprendre à prier par excellence, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'après, donc, on voit comment, à partir du verset 9, je suis au chapitre 4 toujours, « Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant. » Et on voit comment les 24 vieillards entrent dans la prière qui est donnée et qui est introduite, j'ai envie de dire, par Jésus. Et Jésus-Christ est celui qui va nous montrer en premier lieu comment nous devons faire par rapport à notre relation avec Dieu. Et donc, les quatre vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis, et les 24 vieillards vont se prosterner devant celui qui est assis sur le trône. Et ça montre bien que dans notre prière, le premier regard que nous devons avoir, c'est le regard envers celui qui est le Père, qui est notre Créateur. Et c'est pour ça que je crois, moi, quelque part, que toute prière que nous faisons est une prière qui devrait commencer par un acte d'adoration dans lequel on se met en présence de ce Dieu Créateur. Je vous rappelle qu'avant la création du monde, il n'y avait rien. Et la seule chose qui existait avant la création du monde, c'est Dieu et Dieu seul. Et ce Dieu qui existait et qui était seul, qui était face à lui, il n'y avait rien du tout, a voulu un jour devenir créateur. Et lorsque le Père, le Fils, l'Esprit Saint sont devenus créateurs, du néant est sortie la créature. Et nous qui sommes là, nous sommes des êtres qui n'existions pas il y a 200 ans, il y a 500 ans, il y a 100 000 ans, il y a 10 milliards d'années. Et nous avons été créés. Et celui qui nous a créés, c'est justement le Père qui est assis sur son trône. Et c'est normal que nous ayons une relation avec ce Père. Et la relation avec le Père, c'est que nous puissions, eh bien, nous prosterner devant lui. Et en se prosternant devant lui, que nous puissions jeter nos couronnes. Jeter nos couronnes pour montrer que même si sur terre nous avons des couronnes et nous sommes des gens qui sont plus ou moins intelligents, plus ou moins beaux, plus ou moins qui ont réussi leur vie, eh bien tout ça n'est rien par rapport à Dieu. Et tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu qui nous a donné. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, je crois que je peux suivre verset 7 ou 9, où il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout ce que tu as, c'est quelque chose que tu as reçu et tu l'as reçu de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier, lorsqu'on prie, de se remettre face à Dieu. Et l'attitude la plus belle, justement, c'est se prosterner. Alors, je ne dis pas que quand vous entrez dans une église, il faut commencer à vous allonger par terre pour commencer à prier. Mais quelque part, ce sont des gestes qui ne sont pas mauvais. Et il faut avoir l'humilité de temps en temps, surtout si on n'est pas trop vieux, de pouvoir se mettre à genoux devant Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu, et devant Dieu, nous ne sommes pas grand-chose. Et je vous rappelle que normalement, dans l'église catholique, on demande aux fidèles, lorsqu'ils rentrent dans une église, en premier lieu, d'abord, comme vous le savez, de chercher la petite lumière rouge, parce que la lumière rouge dans une église est la lumière qui symbolise la présence du tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a la présence réelle de Jésus-Christ. Donc tout chrétien, normalement, lorsqu'il visite une église, en rentrant dans une église, cherche en premier lieu la petite lumière rouge. Et quand il voit la petite lumière rouge, il voit à côté de la lumière rouge une petite porte qui est la porte du tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y a la présence réelle de Jésus. Et Jésus-Christ est réellement présent dans le tabernacle. Et à ce moment-là, il est bon de faire normalement une génuflexion. Et une génuflexion, ça veut dire qu'on met un genou à terre en direction du tabernacle parce qu'on sait que le Christ est réellement présent. Et en mettant notre genou à terre, eh bien, on dit à Jésus, je reconnais que c'est toi qui es mon Créateur. Je reconnais que tu es mon Dieu. Et je reconnais que moi, ma vie est relative à toi. Et c'est pour ça que face à toi, la première des choses que je fais, je me mets à genoux. Donc, et c'est bon de pouvoir comprendre que dans la prière, l'acte d'adoration devrait, à mon avis, être l'introduction à toute prière. À chaque fois que je prie, me mettre d'abord en présence de Dieu, et en présence de Dieu, reconnaître que je ne suis rien. Et je vous assure que l'acte d'adoration est un acte qui nous libère énormément. En général, moi, dès que j'ai un problème quelconque, si la conscience n'est pas tranquille, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a un souci, ou il y a une difficulté, ou il y a... Bon, eh bien, dès que je comprends quel est le problème que j'ai, première des choses que je fais, je rentre dans l'église, je me mets à genoux au pied de Bernard, et je remets ça entre les mains de Dieu. En disant que Dieu, c'est toi qui es Dieu, moi je ne suis que ta créature. Après, fais de moi ce que tu veux. Je vis, je meurs. Ma vie t'appartient, c'est toi qui as voulu que je sois. Et je t'abandonne tout. Terminé, les soucis sont finis. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions être entièrement abandonnés à la volonté de Dieu. Et dès que je pose un acte d'adoration qui est vrai, dès que je m'abandonne réellement à Dieu, je n'ai plus de soucis. Ceux qui ont des soucis, c'est des gens qui ont des projets et qui veulent réaliser leurs projets. Si tu acceptes que tes projets deviennent relatifs aux projets de Dieu sur toi, mais il n'y a plus aucun problème. Tu vis, tu meurs, tu es crucifié, tu es vivant, tu es... La seule chose importante, c'est qu'à chaque instant de ma vie, je puisse vivre en sachant que c'est Dieu qui doit être là et c'est Dieu qui doit diriger ma vie et je dois accepter d'être dirigé par lui. Et dès que j'accepte cela dans ma vie, je n'ai plus aucun souci. Tous mes soucis disparaissent. Donc, première chose que le Christ a nous enseigné à travers ce livre de l'Apocalypse, c'est le fait de pouvoir nous prosterner devant Dieu en jetant nos couronnes devant le trône et en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. » Dieu, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Et la raison c'est laquelle ? Car tu as créé toutes choses. Et on est bien dans ce passage de Apocalypse 4, dans l'ordre de la création. On rend honneur, gloire, puissance à Dieu, car il est le Créateur, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Et c'est joli. Et on verra dans Apocalypse chapitre 5, hein. Si vous voulez, on peut lire déjà Apocalypse chapitre 5, le chapitre qui suit. Je suis au verset 11. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et là, on est dans une prière dans laquelle intervient l'agneau, l'agneau de Dieu. Là, on n'est plus dans l'ordre de la création comme dans Apocalypse chapitre 4, on est dans l'ordre du salut et de la rédemption avec l'agneau de Dieu qui intervient. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, les deux sont présents, maintenant on a le Père et le Fils, l'agneau de Dieu, la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Et on voit qu'entre Apocalypse 4 et Apocalypse 5, il y a une progression dans la prière. Alors je vous avais dit, pour ceux qui aiment bien la liturgie et la prière, eh bien essayez de voir dans l'Apocalypse les sept passages, puisqu'il y a sept passages où on voit la prière qui est présente et comment à chaque fois dans la prière, il y a une évolution pour nous amener jusqu'à la prière finale des derniers chapitres de l'Apocalypse. Alors, on a fini avec Apocalypse 4. Le trône, quelqu'un, arc-en-ciel, je reviens plus dessous, et puis au milieu du trône et autour du trône, le Fils, avec ses quatre dimensions. Alors ensuite, maintenant, donc, j'arrive au chapitre 5. Alors, vous voyez que depuis quelques jours déjà que nous essayons d'entrer dans le livre de l'Apocalypse, que le livre de l'Apocalypse est un livre qui n'est pas si compliqué que ça. Et vous voyez qu'on peut entrer tranquillement dans l'Apocalypse et comprendre l'Apocalypse sans voir dans l'Apocalypse quelque chose d'apocalyptique avec des trucs incompréhensibles et tout le reste. Et l'Apocalypse, c'est quelque chose qui m'est donné pour moi aujourd'hui. Apocalypse chapitre 4 hein, nous montre bien que Dieu le Père a fait alliance, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Et c'est quelque chose que nous devons vivre aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse, c'est une parole de Dieu qui est donnée pour les chrétiens qui veulent nourrir leur foi. J'ai cité déjà sur les ondes une fois Romains 10, 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et cette parole du Christ, révélation de Jésus-Christ, m'est donnée pour que ma foi à moi aujourd'hui grandisse. Et c'était la même chose au 4e siècle, au 6e siècle, au 12e siècle, et c'est la même chose aujourd'hui. C'est un livre hein, qui est inspiré par Dieu, qui pour nous étant bien interprété est parole de Dieu et qui nourrit ma foi. Et non seulement nourrit ma foi, mais va nourrir aussi mon espérance, parce que pour me donner la force de pouvoir faire la volonté de Dieu chaque jour dans ma vie. Alors je suis maintenant au chapitre 5. Alors, je vous rappelle, il y a 22 chapitres, hein. On est déjà au chapitre 5, donc on a presque fait déjà un quart du livre de l'Apocalypse. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. » Donc on est toujours le trône c'est le Père, et on voit dans la main du Père un livre scellé écrit en dedans et en dehors, c'est le Setso. Alors, il y a énormément d'écritures dans ce livre. Hein. On dit que c'est écrit un peu partout. Pour montrer qu'il y a une connaissance importante pour nous. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Parce que le livre, il est scellé de 7 sceaux. Et ces sceaux-là, eh bien, il faut les ouvrir pour pouvoir lire ce qui est dans ce livre. Mais comme ce livre est scellé, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que l'ange donc demande à Jean, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Et donc on voit dans ce passage de Apocalypse chapitre 5, les 4 vivants qui sont le Christ dans son mystère d'incarnation, et maintenant apparaît un nouveau symbolisme, le symbolisme de l'agneau de Dieu. Et le symbolisme de l'agneau de Dieu, c'est le Christ qui nous montre qu'il y a d'un côté son mystère d'incarnation, et aussi d'un côté le mystère de la rédemption. Et en tant qu'il est l'agneau de Dieu, c'est en tant qu'il meurt sur la croix pour nous sauver. Alors, en réfléchissant sur le Christ, vous voyez, on dit que le Christ est venu sur terre, c'est clair, on est tous d'accord, et il est venu sur terre, pourquoi ? Pour nous sauver. Et il ne nous a pas sauvés en naissant à Bethléem. Ce n'est pas une fois que Marie a accouché Jésus à Bethléem qu'il l'a mis dans la mangeoire que Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ, là, il est venu dans son mystère d'incarnation vivre parmi nous, il va prendre le temps qu'il faudra pour nous donner la parole de Dieu, les sacrements, l'Église, enfin tout ce qu'il peut nous donner, et ensuite il faudra qu'il accepte de mourir sur la croix. Et en tant qu'il meurt sur la croix, il est symbolisé dans l'Apocalypse comme étant l'agneau immolé. Il est venu sur terre dans son mystère d'incarnation, mais ce n'est pas l'incarnation qui nous sauve, c'est la rédemption qui nous sauve. C'est le lien qui est présent là, en Jésus-Christ, entre l'incarnation et la rédemption. Et le symbolisme de l'incarnation, c'est les 4 vivants. Le symbolisme de la rédemption, c'est l'agneau comme immolé. Et c'est cet agneau immolé qui va permettre d'ouvrir les sceaux. Les sceaux de ce livre ne peuvent pas être ouverts tant que le Christ lui-même ne donne pas sa vie pour nous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de salut proposé aux hommes sans que le Christ ne puisse venir et accepter de verser son sang pour nous. Vous savez tous, on peut y revenir si vous voulez, c'est que dans le livre de la Genèse, hein, premier livre de la Bible, il y a d'abord dans la Bible, les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, hein, c'est un mot un petit peu barbare, mais c'est pas mauvais de le connaître. Penta, qui en grec, je crois, veut dire 5. Hein. Un pentagone, c'est une figure qui a 5 côtés. Hein. La Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Hein. Donc, Penta, 5. Et les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et il est bon de pouvoir lire au moins en entier tout le livre de la Genèse et tout le livre de l'Exode. C'est vrai que les autres livres sont déjà un peu plus compliqués, mais il faut absolument, hein, absolument, moi je vous invite à lire le livre de la Genèse. Alors, le livre de la Genèse, c'est quand même 50 chapitres, c'est vrai, le livre de l'Exode, c'est 40 chapitres. En tout, ça fait 90 chapitres. Mais ça montre bien que si vous vous engagez à lire un chapitre par jour, en 3 mois, vous aurez lu Genèse et Exode. Je vous rappelle que pour lire la Bible en entier, il faut le temps nécessaire à passer devant la télévision, le temps pour regarder 26 matchs de foot. Un homme qui regarde un match de foot par semaine dans sa vie, et je crois qu'ils sont nombreux. Un homme qui regarde un match de foot par semaine à la télévision, en une année, a passé devant sa télévision en regardant un match de foot par semaine, le temps nécessaire à la lecture de la Bible 2 fois en entier. Le mondial À partir du mondial, c'est quelqu'un qui, pendant le mois du mondial, regarde un match sur deux à la télévision. Il a, pendant le mois du mondial, passé devant sa télévision le temps nécessaire à la lecture de la Bible en entier. Dans Matthieu chapitre 6, je crois que c'est verset 31 ou 21, il est dit que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et si quelqu'un aime Dieu, s'il aime Dieu, c'est Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein? Si quelqu'un aime Dieu, il va prendre du temps pour lire les Saintes Écritures. Et c'est important pour nous de lire les Saintes Écritures. Et je vous assure et je vous promets que si vous vous engagez aujourd'hui à lire Genèse chapitre 1, demain Genèse chapitre 2, avant 50 jours, vous aurez fini le livre de la Genèse. Parce que quand vous allez commencer à lire, vous allez voir, il y a des histoires dans la Genèse qui sont tellement intéressantes que vous-même, vous n'allez pas arrêter. Surtout quand vous commencerez peut-être la dernière histoire, celle de Joseph. Hein? Déjà, Abraham, Isaac sont des passages qui sont très intéressants. Et c'est un livre qui est très, très facile à lire. L'Exode, c'est la même chose. Dans le livre de l'Exode, il y a beaucoup de choses qui sont très, très intéressantes et très faciles à lire. Donc, tout ça pour vous rappeler que dans le livre de la Genèse, chapitre 1, 2 et 3, on a les deux récits de la création, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 à partir du verset 4, deuxième récit de la création, et Genèse chapitre 3, c'est le péché originel. Et le péché originel fait que l'homme et la femme ayant désobéi font que aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes des gens qui ne peuvent plus être dans le plan de Dieu comme il a été à l'origine. Je m'explique. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, on nous montre comment Dieu va créer un jardin. Dans le jardin, il va mettre au milieu du jardin un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie et à côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va dire à Adam et Ève, « Je vous ai créé avec la vie humaine pour que vous puissiez recevoir le fruit de l'arbre de la vie. » Et la vie qui est au milieu du jardin, c'est la vie divine que Dieu veut donner à l'homme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la vie humaine et dans sa vie humaine qui a reçu la vie divine. Un chrétien a deux vies, la vie humaine et la vie divine. Et Dieu veut que nous puissions recevoir cette vie divine. Mais pour recevoir cette vie divine, il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Et Adam et Ève, malheureusement, ont désobéi à Dieu, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors pour faire vite quand même, on peut essayer de réfléchir un petit peu rapidement sur le symbolisme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et habituellement, quand je commande ce texte avec les gens, comme on l'a fait pendant la trezaine, n'est-ce pas, entre nous, là, je pose souvent la question, est-ce que Adam et Ève avaient la connaissance du bien et du mal avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et aujourd'hui, je sais que vous tous, en tant que bons élèves, vous allez dire, oui, ils avaient déjà la connaissance du bien et du mal avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que la vraie connaissance, ils l'avaient à travers la parole de Dieu. Dieu entrait dans le jardin et Dieu parlait avec Adam et Ève. Et quand Dieu parlait avec Adam et Ève, il donnait à travers sa parole la vérité. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et Adam et Ève ont la vraie vérité. La vérité qui est celle qui vient de Dieu, qui est cette parole de Dieu. Et à travers cette parole, Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Donc ils savaient que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient mourir. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise toutes les fausses connaissances que je vais mettre dans ma tête pour essayer de m'opposer à la connaissance qui est celle de Dieu. Et donc, une fois que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a été obligé de chasser Adam et Ève du jardin. Et en chassant Adam et Ève, il a mis des soldats, et les soldats qu'il a mis là, ce sont ses anges. Et ces anges qui ont empêché Adam et Ève de rentrer à nouveau dans le jardin, parce que maintenant que Adam et Ève ont commis le péché qu'on appelle le péché originel, il ne faut pas qu'ils puissent étendre la main vers l'arbre de vie et avoir la vie éternelle maintenant dans cette situation de péché. Ça veut dire qu'ils seraient éternellement dans le péché. Et Dieu ne veut pas ça. Et Dieu est obligé de chasser Adam et Ève du jardin. Et c'est pour ça que le plan de Dieu sur Adam et Ève et sur sa descendance, donc nous, ne peut plus avoir lieu. Nous sommes privés de l'arbre de vie. Et c'est pour ça que, étant privés de l'arbre de vie, saint Paul dira, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous foutus. Et maintenant que nous sommes foutus, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que l'agneau immolé vienne. Et l'agneau immolé en venant, il va offrir sa vie sur la croix, et en offrant sa vie sur la croix, va nous redonner cette possibilité de devenir enfant de Dieu en recevant la vraie vie. Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je peux devenir enfant de Dieu grâce à l'agneau immolé. Voici dans Apocalypse chapitre 5, le mystère de l'agneau immolé qui vient prendre dans le Père le livre scellé et qui, grâce à sa croix, va ouvrir les sceaux pour nous permettre de pouvoir rentrer à nouveau dans le plan de Dieu sur nous. Donc, on voit comment le livre de l'Apocalypse est un livre qui n'est pas si compliqué que ça. Donc, on va continuer bien sûr avec Apocalypse 5 dans notre prochaine émission. La prochaine émission, d'ailleurs, on va insister beaucoup sur « Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ». Et on va réfléchir sur les pleurs de Jean. C'est intéressant. Moi, je suis de la communauté Saint-Jean, non? Étant de la communauté Saint-Jean, quand tu vois ton saint patron, Jean le disciple bien-aimé qui pleure, eh bien, tu réfléchis un peu sur ses larmes et voir quelles sont les raisons pour lesquelles nous aussi, nous ferions peut-être bien de pleurer. On se voit la prochaine fois. Bye bye à tous et priez pour moi.